Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre famille est en bonne santé. Évidemment, je vous ai pas oublié, j'ai décidé de faire des épisodes à distance depuis chez moi. Et aujourd'hui, je reçois Judith Grabach, qui a fait un documentaire sur l'école, qui est diffusé ce soir sur France 2, qui s'appelle Grandir ensemble. Et avec Judith, on parle, et ça va être un sujet qui va évidemment vous toucher particulièrement parce qu'il y a pas mal de parents qui sont avec leurs enfants en ce moment, et ben, du rôle de l'éducation, du rôle des professeurs, en particulier dans l'école publique, de comprendre quelles sont les difficultés, de comprendre aussi ce qu'elle en a appris, ce qu'elle en a retiré. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Judith.
Bonjour Greg.
Est-ce que tu es en forme? C'est la première question.
Écoute, tout va bien. Et toi?
Bon, bah écoute, ça va pas trop mal. Tu as fait plusieurs documentaires, deux documentaires sur l'école. Il y a le deuxième qui va être diffusé ce soir sur France 2. C'est très étrange parce que je fais jamais vraiment d'épisodes comme ça au pied levé sur Vlan. Mais je suis ravi de le faire avec toi. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'école pour que tu souhaites en faire un documentaire à l'origine?
Je crois que c'est toujours un peu difficile de savoir pourquoi on est intéressé par l'école, parce qu'à mon avis, il y a des sujets qui sont extrêmement personnels et assez psychanalytiques. En tout cas, quand j'ai débarqué dans les classes que j'ai eu la chance de visiter au départ, je me suis dit deux choses. D'abord, moi qui avais quitté l'école en courant, je me suis dit là, dans une école comme ça, je veux bien y retourner demain. Et je me suis aussi dit que si j'étais passée par ces écoles-là, j'aurais gagné 10 ans de vie, de chemin personnel, d'atermoiement, d'hésitation, etc., qui certes font partie du voyage, mais qui pour certains sont un peu douloureux. Et je me suis vraiment dit que ces enseignants-là arrivaient à faire des choses avec les enfants, à les aider à se connaître eux-mêmes, à gérer leurs émotions, à interagir avec les autres d'une manière qui était constructive, etc., qui étaient des choses que j'avais appris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie. Donc l'étincelle, elle est née à ce moment-là.
Alors là, on est dans une période de confinement, donc nécessairement, l'école, elle est fermée. Ça pose énormément de questionnements aux parents, mais aussi aux professeurs, mais aussi, je pense, de manière plus générale, à comment on organise l'éducation à distance. Donc, je pense que c'est un sujet qui va vraiment beaucoup parler en ce moment aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que toi, tu as découvert, comprise à travers ton documentaire? Pourquoi tu fais un second documentaire par rapport au premier qui avait déjà eu un gros succès?
Alors déjà, finalement, pour revenir sur ce que tu disais au début sur la période qu'on est en train de vivre, qui est donc une période qui exige de tous les parents de recourir à des trésors d'inventivité pour occuper leurs enfants et leur permettre d'apprendre. C'est une période dans laquelle les enseignants sont en très grande difficulté parce que ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent avec les outils numériques qu'ils ont qui fonctionnent globalement pas, et pour rester en contact avec leurs élèves qui ne sont pas équipés et qui sont les élèves qui ont le plus besoin d'être en lien avec l'école. Et je pense que cette période qui est extrêmement difficile et compliquée pour tout le monde, elle a une seule vertu, c'est de nous obliger à appuyer sur le bouton pause, en fait. Le débat sur l'éducation en France, c'est une dictature du temps court. Il suit le temps du politique, chaque nouveau ministre arrive et veut imposer sa réforme, veut tout changer, veut déconstruire ce qui a été fait juste avant lui. Et le temps de l'éducation, c'est pas le temps du politique, c'est un temps qui est long. Et le temps sur lequel on a besoin de se caler, c'est le temps du monde dans lequel vivront les enfants qui sont aujourd'hui à l'école. Et ça nécessite un débat de fond, une réflexion profonde et un débat de société, en fait, qui inclut absolument tous les acteurs, que ce soit les enseignants, mais aussi tous les autres membres de la communauté éducative, et les parents, et les enfants, etc. Et je pense qu'on a absolument besoin de prendre ce temps de réfléchir ensemble et d'avoir ce débat pour construire l'école dont on a envie, et surtout l'école dont on a besoin. Pourquoi un second documentaire? C'est parce qu'en fait, le premier, il s'est fait presque par hasard. Il s'est fait à partir d'une commande au départ de 4 vidéos de 3 minutes grâce à l'association Ashoka, et on l'a fait un petit peu avec des bouts de ficelle, c'est-à-dire qu'on a tourné des images qui au départ étaient destinées à des petites vidéos, de tout ça on a fait un film. Et donc nécessairement, et aussi parce que c'était mon premier film, y a plein de choses qui, comment dire, même si je l'adore ce film et que je ne le renie absolument pas, il y a plein de choses qui étaient améliorables, infiniment améliorables. Et par ailleurs, à force aussi de faire des projections, débat, parce qu'il y en a eu beaucoup autour du film, d'en parler, de faire des conférences et tout ça, ma réflexion sur le sujet, qui n'est pas une réflexion d'experte, a évolué. Donc, par exemple, dans Une idée folle, il y avait des écoles publiques et des écoles privées, et je me suis rendu compte que même si je suis, je sais qu'il se passe des choses merveilleuses dans l'école privée et qu'il y a des gens formidables dans l'école privée, si on veut vraiment transformer le système éducatif et si on veut vraiment garantir une égalité réelle entre les enfants, c'est l'école publique qu'il faut transformer. Et que pour transformer l'école publique, il valait mieux montrer de l'école publique. Et encore plus, il valait mieux montrer les endroits où c'était finalement le plus compliqué. Donc en fait, là, j'ai choisi de tourner pendant une année scolaire entière dans trois classes de trois régions différentes et de trois niveaux différents. Il y a une classe de primaire en Gironde, une classe de collège à Perpignan et une classe de lycée au Bourget dans le 93, qui sont des classes qui sont finalement aussi ordinaires qu'extraordinaires. Et j'ai voulu montrer des enseignants et des élèves qui, malgré toutes les difficultés, cherchent, essayent, se trompent, recommencent. Et en fait, je voulais montrer comment des enfants et des adultes grandissent ensemble dans une classe, sur le temps long, alors que dans le premier film, on était sur des temps plutôt courts. C'est plutôt un manifeste, finalement.
Parce qu'effectivement, ce qu'on a tendance à reprocher à toutes les écoles Montessori et autres, c'est que c'est des écoles privées et que nécessairement, la majorité des gens n'y ont pas accès. Et donc, là, ce que toi, tu as voulu faire, c'est aussi, enfin, c'est principalement aller dans de l'école publique et quasiment, enfin, d'ailleurs, c'est exclusivement de l'école publique, au final.
Mais c'est exclusivement de l'école publique et surtout, en fait, on ne se rend pas compte du nombre d'initiatives extraordinaires qui existent au sein de l'école publique. On a tendance, il y a un phénomène un peu médiatique autour du privé et Montessori particulièrement, alors que dans l'école de quartier, la plus petite école de quartier, dont il se passe des choses merveilleuses. Donc moi, ce que je veux faire, c'est mettre en lumière finalement ces initiatives et ces enseignants qui sont très nombreux, qui sont partout sur le territoire, et auxquels j'ai en fait envie de rendre hommage parce que ils sont incroyablement engagés, ils sont extrêmement créatifs et ils sont très courageux. Et il y a énormément d'enseignants en France aujourd'hui qui se sentent seuls, qui se sentent démunis et qui même parfois se sentent souvent méprisés aussi bien par la société que par l'institution. Donc je pense que c'est très très important de les mettre en valeur, de leur dire merci. Et je crois que les parents en France en ce moment sont en train de se rendre compte à quel point c'est difficile de faire le métier qu'ils font.
Ouais, j'ai vu une sorte de phrase rigolote comme ça qui disait après le confinement, finalement, je me rends compte que c'est peut-être pas le professeur le problème.
C'est ça. Donc je crois que ça invite aussi, ça invite tout le monde à une certaine humilité. Ouais. Et franchement, pour passer pas mal de temps dans les écoles, enfin pour les tournages, etc. Moi, je sors d'une journée de tournage lessivée. Et c'est pas moi qui ai fait cours. Enfin, je veux dire, être dans une salle de classe avec 30 enfants ou 30 adolescents d'ailleurs et maintenir leur attention et les engager dans les apprentissages, etc. C'est vraiment un métier extrêmement difficile. Et je trouve ça bien finalement que les gens s'en rendent compte aujourd'hui un petit peu plus qu'hier.
Ouais, non, c'est vrai en fait que à l'origine c'est un, alors c'est pas forcément un métier régalien, mais ça devrait l'être, et c'est un métier qui est essentiel. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, en particulier pour les enfants. On a tendance à dire que l'école ne développe pas trop l'intelligence émotionnelle, ou en tout cas participe beaucoup plus à l'éveil de culture générale ou d'apprentissage. Ça dépend à quel niveau on se situe, évidemment, mais apprentissage de faits ou apprentissage d'écriture, etc., de lecture. Est-ce que toi, tu as vu dans ces classes un peu exceptionnelles, ou en tout cas ces professeurs qui avaient des initiatives hyper intéressantes, une volonté d'accompagner aussi cette partie émotionnelle de l'enfant?
Ce que je trouve le plus intéressant dans leur démarche, c'est le lien entre l'individu et le collectif. C'est des classes dans lesquelles on permet à chaque enfant d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui il est, où on respecte son individualité, ses caractéristiques propres, ses différences, et en même temps où on construit le collectif. Et je crois que c'est vraiment cette relation-là entre le permettre à chaque individu de se construire et en même temps lui permettre de... Oh là là, j'ai eu l'impression d'entendre Macron là, pardon. et en même temps de lui permettre de trouver sa place dans le groupe. Je pense que c'est la meilleure métaphore finalement de ce qu'on devrait faire pour faire société tous ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font, je trouve, extrêmement bien. Après, ils tiqueraient beaucoup sur le mot exceptionnel. Il n'y en a pas un seul d'entre eux ne se considère comme un prof exceptionnel, ne se présente comme un prof exceptionnel. Et ils ont beaucoup de mal avec ça parce que, voilà, eux, pour eux, ils font leur job. C'est des gens qui se remettent en question du matin au soir et ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Là, il y en a quelques-uns dans le film, mais il n'y a aucune valeur d'exhaustivité. Hein. C'est trois exemples, quoi.
Et est-ce que, enfin, la question que je me pose moi, qui est pas d'enfant et qui suis pas professeur, qui est pas de professeur dans ma famille ou quoi, c'est que est-ce que ça serait pas le rôle de l'éducation nationale de modifier la manière dont on donne classe ou d'accompagner les professeurs d'ailleurs dans une nouvelle manière d'enseigner, plutôt qu'il y ait des personnes de manière isolée entre guillemets qui prennent des initiatives.
Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que la plus grande question, c'est la question de la formation, à la fois la formation initiale et la formation continue des enseignants. Énormément d'enseignants disent qu'ils manquent cruellement de formation et qu'ils se retrouvent un petit peu largués dans leur classe en apprenant vraiment sur le tas. Après, la question, c'est du coup, comme pour l'instant, ce n'est pas vraiment fait ou pas assez fait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend qu'il y ait une réforme providentielle qui tombe du ciel ? Ce qui n'arrivera pas, ou est-ce que on se débrouille quand même avec les moyens du bord pour faire quelque chose, quoi. Et en fait, ça, ce que tu dis me fait penser à une question qui est toujours un petit peu compliquée, c'est que il y a énormément de choses qui dysfonctionnent dans l'éducation nationale, et il faut les dénoncer absolument. Il faut dénoncer le manque de moyens humains, il faut dénoncer le manque de moyens matériels. Il y a un nombre de situations incalculables qui sont décrites par les équipes pédagogiques qui, moi, me mettent dans une colère noire. Mais il faut aussi, je crois, montrer ce qui fonctionne. Alors, ça fonctionne pas tous les jours, ça fonctionne pas à tous les coups. Mais c'est important, à mon avis, de montrer des choses qui marchent, ne serait-ce que justement pour donner des idées ou pour donner envie à ceux qui se sentent seuls, démunis, qui se sentent pas accompagnés. Et après, il y a aussi une question en tant que réalisatrice qui est qu'il faut trouver sa place et qu'il faut trouver ce qui correspond à sa propre sensibilité. Et moi, j'ai profondément envie et besoin d'espoir, et j'ai besoin de faire des films qui sont des outils qui aident évidemment à mon tout petit niveau à une conversation plus globale et plus positive sur l'éducation en France, alors que le débat, il est en général d'une violence inouïe, quoi. Moi, je rêve d'un débat qui soit sans invective, qui soit sans certitude, dans lesquels on ait peut-être plus de questions que de réponses, en tout cas au début, et je crois qu'on a vraiment besoin de ça.
Et justement, tu parles de... Enfin, on parle d'éducation. Est-ce que ce documentaire, il peut avoir valeur de, pas d'exemplarité, certainement pas, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y a personne d'exceptionnel, mais en tout cas, est-ce que ça peut servir peut-être à d'autres professeurs ou peut-être à d'autres parents de savoir comment ils pourraient peut-être faire autrement?
Ce qui est difficile dans ta question, c'est que y a aucune. Il faut que j'insiste sur le fait que c'est pas.
Non, c'est surtout pas.
On donne pas de leçons, quoi. Il y a aucune vérité. Et le film, il y a beaucoup plus de questions dans le film que de réponses. Donc c'est certainement pas la bonne manière de faire ou les bonnes manières de faire, mais c'est des idées. Et ce qui est peut-être intéressant à garder, c'est peut-être la posture de ces enseignants. Et cette idée de questionnement, de remise en question permanente, où en fait on s'adapte à la fois à la situation dans laquelle on se trouve, aux élèves qu'on a en face de soi, où on accepte, où on essaye d'accepter de ne pas être toujours parfait, où en fait il y a des ratés, ça ne marche pas toujours, mais on essaye. Et on essaye de faire ensemble aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux établissements dans le film dans lesquels il y a un travail d'équipe qui est vraiment très important et qui aide beaucoup les enseignants à tenir. Donc il y a une notion d'équipe, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les enfants. C'est des enseignants qui vont dire aux élèves qui considèrent que la classe, c'est une équipe. Donc je pense qu'il y a plein de petites choses à garder dans cette idée de posture, dans cette idée justement du questionnement et d'essayer des choses. Ils essayent des choses même au risque de se tromper. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment à l'éducation nationale quand on y est élève. Et donc, pas nécessairement, je crois, non plus dans la formation des enseignants telle qu'elle existe aujourd'hui. Et peut-être qu'on aurait quelque chose à gagner à avoir peut-être moins peur de se tromper. Même si je conçois que c'est absolument terrifiant quand on est en face d'une classe. Je ne le suis pas, donc je ne donne de leçons à personne.
C'est sûr. C'est quoi les choses que tu as retenues le plus de... Enfin, pas forcément de ce documentaire-là, d'ailleurs, mais de toutes tes expériences en classe ou à suivre des professeurs, à arpenter justement ce nombre de collèges, de lycées, d'écoles primaires. C'est quoi qui te marque le plus au final ou c'est quoi les choses que tu retiens le plus?
Ce qui me marque le plus, je crois, c'est à quel point des enseignants qui ne se connaissent pas, qui habitent aux quatre coins de la France, dont les élèves n'ont pas le même âge, n'ont pas la même origine sociale, ont parfois une conception quasi identique de leur rôle et de leur métier. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communauté d'esprit où, au montage, si j'avais voulu jouer à ça, j'aurais pu faire terminer les phrases de l'un par l'autre. Il y a vraiment quelque chose franchement d'assez beau à voir cette
symbiotique.
je sais pas comment l'appeler à part communauté d'esprit, mais ça c'est une des choses. La deuxième, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup tendance, je crois, dans la société de manière générale, à sous-estimer les enfants, à penser qu'un enfant, ça ne sait pas encore, qu'on sait toujours mieux qu'eux, etc. Et ce dont je me suis rendu compte dans cette classe, et ce dont ces enseignants se sont rendus compte il y a très longtemps, c'est que les enfants ont énormément de choses à dire, énormément de choses à proposer, si on leur en laisse l'opportunité. Et que c'est la meilleure façon de construire une société qui serait vraiment différente demain, c'est de les engager à y participer tout de suite. Et c'est ce qui se passe notamment dans la classe d'Amélie, qui est l'enseignante de primaire, quand elle fait un projet avec eux pour repenser l'école justement de demain. Et plus on fait confiance aux enfants, plus ils arrivent à faire des choses absolument extraordinaires. L'idée, c'est de s'interroger vraiment sur le rôle et le sens de l'école, sur quel monde on a envie de construire tous ensemble. En fait, ça dépasse finalement le sujet de l'école et le sujet de l'éducation. C'est vraiment penser à l'avenir et se demander dans quel monde on a envie d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, sous-tend finalement le projet de tous ces enseignants-là.
Mais justement, la crise qu'on est en train de vivre, elle remet en cause énormément de choses. On se rend compte que finalement, on a une très forte interdépendance mondiale, mais aussi une très forte dépendance au niveau local. On se rend compte à quel point les gens qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire les éboueurs, mais aussi les postiers, mais aussi les chauffeurs de bus, les infirmières, les docteurs et donc les professeurs sont essentiels au bon fonctionnement de la société. Peut-être que c'est le moment justement de repenser le rôle de toutes ces fonctions qui sont essentielles pour nous et pour chacun.
Oui, j'en rêve en fait, mais j'ai lu une Claire Marin qui était interviewée dans Le Monde, je crois que c'était hier ou avant-hier, le titre de l'article m'a frappée, elle disait « Face à la catastrophe, on se rassure en la considérant comme une parenthèse plutôt qu'un avertissement. » Et en fait, je trouve ça très juste, c'est-à-dire que quelque part, j'aimerais bien que ça nous serve à quelque chose. J'aimerais bien que ce moment extrêmement difficile qu'on traverse, et là, je veux dire, là, on est le 25 mars, je le précise parce que c'est important de on ne sait pas ce qui va se passer un peu plus tard. Et je pense que la crise qu'on est en train de vivre, on a vraiment intérêt à en tirer toutes les conséquences et à ne pas, dès qu'elle sera terminée ou en tout cas dès qu'elle sera entre parenthèses, se remettre à tout faire comme avant, quoi, en oubliant totalement justement les questions qu'on s'est posées quand on était tous confinés.
Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui regardent le documentaire retiennent? Parce qu'en fait, il y a aussi ça, quand on crée un document, on a envie que les personnes qui le consomment d'une certaine manière en retirent quelque chose. Pour toi, c'est quoi le message essentiel?
Le message essentiel pour moi, c'est que l'école, même si elle est évidemment un endroit où on doit apprendre à lire, à écrire, à compter, où on doit apprendre l'histoire, où on doit apprendre la culture générale, etc., même si tout ça, c'est absolument fondamental, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que l'école n'est pas que un lieu de transmission de connaissances. Et je crois que ce que ce film montre, c'est l'humanité de l'école, c'est-à-dire l'importance de la relation. On voit dans ce film énormément de moments où les enseignants sont en tête-à-tête, par exemple avec des élèves dès qu'ils le peuvent. Et ça, ils ont des façons d'organiser ça dans la classe, mais c'est des enseignants qui construisent avec leurs élèves une relation qui est une relation extrêmement soutenante. Ça n'empêche pas qu'il y a un cadre extrêmement défini, voire parfois très strict, comme à Perpignan avec Olivier, comme vous le verrez dans le film. Mais c'est aussi des enseignants qui sont extrêmement à l'écoute de leurs élèves et qui, comme le dit Amélie, qui est l'enseignante de primaire, construisent une âme collective dans leur classe. Ça, pour moi, c'est l'un des messages les plus essentiels. Dans une période où on nous parle beaucoup de neurosciences, etc., ce qui est très intéressant, mais je veux dire, je crois qu'on a tendance à négliger cette partie-là qui est absolument fondamentale.
Et je ne sais pas si tu as été en contact avec certains de ces professeurs pendant cette période-là, pendant cette dernière semaine de confinement.
Oui, bien sûr. Ouais.
Comment ils vivent, eux, ce confinement et le fait de devoir faire des cours à distance, donner aux parents, de soutenir les parents dans le rôle d'éducation?
Ceux à qui j'ai parlé, c'est-à-dire ceux du film et quelques autres, sont d'abord débordés, c'est-à-dire qu'ils travaillent énormément. Et ils sont tristes d'abord de plus voir leurs élèves, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui font ce métier-là par passion, donc ils sont profondément tristes de plus être en contact face à face avec leurs élèves, et ils sont quand même pour certains très en colère que les outils ne fonctionnent pas. Ils sont très en colère parce qu'ils savent que cette crise va pénaliser certains beaucoup plus que d'autres. Là, on a vu par exemple aujourd'hui que dans le Haut-Rhin, des familles qui n'étaient pas équipées d'ordinateurs sont venues chercher des polycopiers à l'école, et que du coup, le coronavirus s'est transmis comme ça dans la région. Donc, on se rend bien compte que on n'est pas tous à égalité dans cette crise-là, et c'est encore plus vrai pour les enfants. Donc, ils font comme ils peuvent, ils redoublent d'inventivité. J'ai un ami formidable qui a créé, par exemple, un journal du confinement collectif avec ses élèves sur lequel ils écrivent tous chacun tous les jours, et c'est des écrits qui se répondent, et c'est au lycée, c'est absolument bouleversant à lire. Voilà, donc ils essayent d'inventer des choses qui vont au-delà juste de faire classe devant un écran, parce que ça, on sait très bien que ça a vraiment ses limites, quoi. Donc ils essayent d'inventer des, comme toujours en fait, ils essayent de faire face aussi au contexte et à la situation en étant le plus créatif et le plus inventif possible pour aider leurs élèves
Il y a vraiment ce lien, en fait, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que dans notre société, on a perdu beaucoup le lien à soi. Enfin, j'y reviens souvent, mais c'est un peu ma marotte, mais le lien à soi, aux autres et à la nature. Et en fait, toi, depuis le début, tu parles beaucoup finalement du lien entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les élèves entre eux. Finalement, ce qui est vrai, ce qui est une évidence, mais...
Et entre les enseignants.
Et puis entre les enseignants aussi. C'est que l'école, c'est un lieu de sociabilité avant même d'être un lieu d'apprentissage, finalement. Parce qu'on apprend aussi à être les uns avec les autres. Est-ce que il y a des... méthode, je ne sais pas si méthode c'est le bon terme. Non, parce qu'en même temps, tu veux pas donner de leçons, donc on va peut-être pas parler de méthode, mais
surtout que je suis pas enseignante, moi.
Non, mais surtout que t'es pas enseignante.
Voilà.
Mais que je sais pas si t'as vu des choses peut-être qui t'ont marqué, peut-être pas donner des conseils, mais en tout cas des choses qui t'ont marqué sur les différentes expériences que tu as pu avoir.
Bah, y a un exemple qui est très parlant dans le film, qui est un moment de crise que je vais pas raconter en détail, enfin qui est un moment de post-crise en fait, de résolution de conflit. Et en fait, typiquement, c'est pas des classes où il y a pas de conflit, c'est pas des classes où il y a pas de crise, c'est pas des classes où un enseignant ne peut pas craquer à un moment et hurler alors qu'il aurait préféré rester calme. Ça arrive aussi dans ces classes-là, mais c'est des classes dans lesquelles on en parle après. On en parle pour que ça n'arrive plus, ou que ça n'arrive, ou que ça arrive moins, ou que tout le monde comprenne ce qui s'est passé, pour qu'on en tire des leçons et pour que tout le monde puisse avancer. Ça, c'est par exemple quelque chose de très marquant. C'est, comme je te le disais, des classes dans lesquelles, dès qu'on peut, on essaye de créer des moments de relations privilégiées. Donc, par exemple, au collège à Perpignan, il y a des petits entretiens individuels tous les trimestres pour se fixer un défi pour le trimestre d'après, pour se mettre un objectif personnel et individuel. Il y a le fait de faire des projets, ça crée des liens, parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire travailler les élèves entre eux, ensemble, pour construire des choses ensemble, et ça, on sait que ça tisse des liens. Il y a évidemment, à Perpignan, qui est une classe, c'est des classes coopératives, donc c'est-à-dire que la coopération est vraiment au centre du dispositif pédagogique. Donc, c'est des classes dans lesquelles il y a un grand nombre d'heures par semaine où les élèves sont encouragés à s'aider les uns les autres. Sur les matières, par exemple, où ils sont plus à l'aise. Donc, ils vont être des personnes ressources sur les mathématiques, le français, l'histoire, parce qu'eux, ils sont bons dans cette matière. Et puis, peut-être, le même élève se fera aider sur une autre matière dans lequel il est moins fort. Donc, ça permet des relations d'entraide, ça permet des relations d'empathie. Et ça leur permet aussi de mieux apprendre, parce qu'en fait, quand on reformule pour quelqu'un d'autre ce qu'on a appris, on apprend mieux.
Donc ça passe ce soir sur France 2. Alors il y aura peut-être des gens qui vont écouter ce podcast plus tard. J'imagine que le documentaire sera disponible en replay, tu sais ou pas ou...
Oui, absolument.
Donc ça s'appelle Devenir grand, c'est ça?
Oui.
Je me trompe pas.
Devenir grand.
Devenir grand parce que c'est devenir grand ensemble, j'imagine, professeur et élève.
En fait, on a beaucoup parlé des enseignants, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute la partie de la voix des enfants qui est aussi très présente dans le film. Mais je voulais aussi montrer comment on devient grand, comment on grandit et comment l'école peut aider à devenir grand. Et donc aussi, quelles questions on se pose à 8 ans, à 11 ans, à 16 ans et comment l'école peut, et peut-être même doit, accueillir ces questions-là.
Super. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Je voudrais claquer la porte à la violence du débat éducatif en France. Je voudrais qu'on arrive à se parler de tout ça sans s'insulter, sans être plein de certitudes. Et je voudrais ouvrir la porte à une école qui permet à chacun de s'épanouir à la fois individuellement et avec les autres.
Super. Merci beaucoup, Judith.
Merci, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt !